Le Brunch, l'émission qui met en lumière ceux qui font l'actualité à Toulouse et la région. Le Brunch.
Bonjour à tous, bienvenue dans Le Brunch, votre émission hebdomadaire qui met en lumière toutes les semaines celles et ceux qui font l'actualité sur Toulouse ainsi que sur toute la région. Émission spéciale Octobre Rose, aujourd'hui qui met en avant les activités promues par la commune de Roc à l'occasion de ce mois consacré au dépistage du cancer du sein. Et puis nous aurons en fin d'émission Myriam, notre chroniqueuse qui nous amène chaque mois en balade. Aujourd'hui, destination le Danemark. Le Brunch 2024, c'est parti. Et nous vous souhaitons la bienvenue à notre émission Le Brunch sur les ondes de Radio Axe Sud, l'émission qui met en lumière celles et ceux qui, à leur façon, font l'actualité sur Toulouse ainsi que sur toute la région. Émission spéciale, nous sommes en extérieur aujourd'hui à l'occasion d'Octobre Rose et c'est la commune de Roc-sur-Garonne qui nous reçoit au tiers-lieu Le Moulin. J'aimerais, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, en étant public, que tout le monde applaudisse. Eh ben dis donc, on n'a pas eu autant d'applaudissements depuis bien longtemps, mais d'habitude on est en studio, c'est un plaisir de vous retrouver en tout cas tous et toutes ici pour parler de l'événement d'Octobre Rose. Comme il se doit, vous le savez, ça se passe chaque année sous le mois d'octobre et c'est l'occasion d'avoir un tour de table ici. Aujourd'hui on va parler santé, on va parler bien-être, on va parler prévention et c'est l'occasion de retrouver tout d'abord la commune de Roc qui a l'honneur de nous accueillir avec monsieur le maire, monsieur Mabir, que j'aimerais qu'on accueille juste derrière nous. On peut l'applaudir bien fort s'il vous plaît. Est-ce que monsieur Mabir, vous voulez dire un petit mot en introduction? Moi, je sais que vous n'aimez pas trop parler. Venez, rapprochez-vous de nous. Allez, s'il vous plaît, je vous laisse mon micro pour évoquer justement Octobre Rose et l'initiative de la commune.
Eh bien, merci. J'ai un grand plaisir de vous accueillir avec cette foule nombreuse qui vient aujourd'hui pour cette opération. On se voulait sur Roc de remettre l'opération Octobre Rose, je dirais, à jour, puisque ça fait quelques années, malheureusement, que cette opération avait un petit peu disparu de nos radars. Donc voilà, aujourd'hui c'est chose faite. Donc, on accueille avec grand plaisir dans ce moulin tous ces acteurs qui sont là présents et qui vont pouvoir, comme vous l'avez dit, surtout parler de prévention, puisqu'aujourd'hui, le message, c'est quand même de l'espoir. Aujourd'hui, sur la prévention du cancer du sein chez la femme et aussi, puisque tout à l'heure, on me l'a rappelé, chez l'homme. C'est rare, mais ça existe aussi. Et c'est souvent des formes qui sont plus insidieuses et plus dangereuses. Voilà, donc aujourd'hui, c'est le message d'espoir qu'il faut passer. Ça veut dire qu'au bout, il y a quasiment, je ne vais pas dire 100% de réussite, mais 100% de chance que ce cancer soit soigné. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est le message d'espoir qu'on essaye de faire passer dans cette opération-là sur la commune de Roc. Donc vous aurez des intervenants là autour de la table, notamment des médecins qui parleront de ça et qui donneront ce message d'espoir et qui délivreront ce message. Donc voilà. Donc bonne fête, je dirais aujourd'hui, parce que c'est aussi la fête, c'est la joie. Voilà, c'est ce message qu'il faut faire passer auprès de nos concitoyens. Merci.
Et c'est une conseillère qui va nous parler tout de suite justement à la commune de Roc, Madame Maé. On peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Voici. Alors, Madame Maé, justement, parlez-nous de cette opération Octobre Rose. Donc, c'est la première fois depuis le Covid qu'elle a eu lieu, n'est-ce pas ?
C'est ça, en fait. La dernière opération, elle avait été organisée en 2019, mais en partenariat avec d'autres communes. Donc après, ouais, c'est la pandémie qui a compliqué la mise en œuvre dans la commune. Donc, en 2019, en plus, c'était avec plusieurs communes. Là, on est vraiment tout seul. Donc on avait voulu, ça nous tenait à cœur de relancer à notre échelon local. Octobre Rose. Donc bon, c'est à la fois la promotion, la prévention du dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus.
Oui, on en parlera avec le docteur Bichara, voilà, qui est à côté de nous.
Je suis aussi médecin généraliste sur une commune avoisinante.
D'accord, très bien.
Voilà. Mais c'était aussi l'occasion de faire découvrir des associations sportives, mais aussi des professionnels formés dans l'accompagnement au bien-être et surtout qui œuvrent sur notre secteur géographique. Donc les femmes peuvent aussi plus facilement y accéder. Et puis, comme on en parlait tout à l'heure, c'était aussi que les femmes sachent qu'elles existent et qu'elles sont pas loin. Et on n'a pas toujours cette information facilement accessible. Parce qu'elles aident les femmes à se reconstruire à la fois physiquement, par le soin de soi, par une activité sportive pratiquée ensemble. Voilà, des femmes qui ont traversé les mêmes épreuves. Et psychologiquement. Parce que ça leur permet de restaurer l'estime de soi. Et le fait d'être ensemble, c'est quelque chose de très important.
Eh bien, en tout cas, bravo pour cette belle action. C'est pour ça qu'on passe le micro tout de suite à Karine Galli, juste à côté de nous, qui, justement, elle, on peut l'applaudir, responsable de l'action sociale. Responsable de l'action sociale à la commune de Roc, ici, conseillère en économie sociale et familiale. Karine, alors dis-nous tout. Cette action, donc, qui vient aujourd'hui, ça se passe sur toute la journée, n'est-ce pas ?
Oui, du coup, nous avons construit une action sur toute la journée et qui s'inscrit dans nos missions, en fait, puisque le CCAS, c'est d'abord un lieu d'accueil, d'écoute et d'accompagnement qui est destiné à tous les habitants de Roc. Et à travers le CCAS, la collectivité met en œuvre des projets d'action sociale et des projets intergénérationnels. Je pourrais citer, par exemple, la semaine bleue, qui est une semaine dédiée aux seniors, où des rencontres intergénérationnelles ont lieu. Il y a aussi le voyage senior, la distribution de colis festifs et après d'autres actions comme la bourse au permis. Donc cette journée Octobre Rose, elle a été impulsée avec le CCAS et en lien avec les élus. Différents partenaires ont du coup participé à cette élaboration. Du coup les services communaux que je tiens à remercier, les associations, les professionnels de santé. Et aussi j'en profite également pour dire un grand merci à tous les bénévoles qui ont pris de leur temps pour participer à cette journée, pour en faire un temps festif. Donc on a un programme qui est riche et varié tout au long de la journée. Du coup, avec la marche bleue qui a eu lieu tout à l'heure, l'intervention de professionnels de santé, des ateliers et la projection du film De plus belle qui clôturera cet événement à 18h dans la salle de spectacle. Les dons que nous allons recueillir aujourd'hui du coup, sont destinés aux Dragon Ladies qui pourront présenter tout à l'heure leur intervention.
Elles arriveront à la fin de l'émission justement pour nous donner cette belle lueur d'espoir par rapport à cette journée et Octobre Rose.
Et du coup, avec Madame Mahé, nous irons leur rendre visite pour pagayer avec elle.
Vous allez pagayer, vous aussi ?
Voilà, et pour remettre les dons.
Ah ben ça, c'est super. Il va falloir qu'on soit là ce jour-là. On va voir, on va assister à ça, en tout cas. Karine, on va également remercier toutes celles et ceux qui ont participé au niveau de la commune, puisqu'il y a du personnel communal, entre autres, qui s'est impliqué sur Octobre Rose, n'est-ce pas ?
Les différents services de la commune se sont impliqués, que ce soit ben, du coup la maison pour tous, les professionnels du CCAS et du coup ma collaboratrice qui m'a accompagnée tout au long de ces projets et qui est là-bas, donc Sarah Lafage.
On la salue, Sarah.
Du coup le service culturel qui nous accueille et qui participe au déroulé de cette journée. Et après les services techniques qui m'ont suivi dans la décoration de la commune en accrochant des guirlandes de soutien-gorge et des parapluies. Voilà.
Et c'est vrai qu'en plus, là on le voit pas, on prendra des petites photos, tout à l'heure on mettra sur les réseaux sociaux, mais le tiers-lieu, le moulin est très bien décoré aux couleurs roses, bien sûr, les parapluies, mais également la lumière. Et on est vraiment dans un écrin de solidarité et puis surtout de sourire, parce qu'on va redonner le sourire aujourd'hui avec cette émission, en tout cas. Bravo, Karine. Un petit mot à rajouter, peut-être ?
Non ? Ben, je souhaite une très belle journée à tout le monde.
Ben, merci, on peut vous applaudir, ainsi que tout le personnel. Juste à côté de moi, nous avons le docteur Bichara, que j'aimerais qu'on applaudisse, s'il vous plaît, bien fort, médecin de santé. Marie, vous êtes médecin de santé publique et vous êtes au Centre régional de coordination de dépistage des cancers. On va parler donc de Octobre Rose qui existe depuis 1992 aux États-Unis et qui est arrivé en France il y a 30 ans, en 1994. On peut dire que maintenant, Octobre Rose est bien entré dans l'inconscient de chaque Français et Française ?
Alors oui, c'est vrai que les manifestations Octobre Rose fleurissent un petit peu partout en France. Hein. Tous les mois d'octobre, le pays se couvre de roses. C'est bien rentré dans les mœurs. Ça a vraiment permis une démystification du mot cancer et du cancer du sein en particulier. Les femmes osent de plus en plus en parler. Et ça, c'est vraiment très important. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire, bien évidemment, parce que Octobre Rose, à la base, c'était vraiment consacré au cancer du sein. Et c'était pour la prévention du cancer du sein. Petit à petit, ça s'est élargi à tout ce qui tourne autour du cancer du sein, sa prise en charge, les soins de support, tous les sports de réadaptation, de sports adaptés, etc.
Oui.
Donc c'est une vraie chance d'avoir ces manifestations-là. Après, il ne faut pas oublier de dire que ben, la prévention du cancer du sein, ce n'est pas que pendant Octobre Rose, il faut vraiment en parler
c'est
tout au long de l'année.
Est-ce qu'il est vrai que malheureusement, une femme sur deux seulement se fait dépister, c'est ça ?
Et oui, malheureusement, actuellement, c'est ça. C'est entre, quand on prend tous les types de mammographies de dépistage confondues, c'est-à-dire les mammographies qui sont faites dans le cadre des invitations du programme national, ce qu'on appelle le dépistage organisé.
À partir de quel âge on peut le faire ?
C'est à partir de 50 ans.
D'accord.
Voilà, donc à partir de 50 ans, les femmes reçoivent des invitations, une invitation tous les deux ans pour faire une mammographie de dépistage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le dépistage organisé. Il y a à peu près une femme sur, on va dire 40-45% de femmes qui répondent positivement à cette invitation-là. Mmh. Et si on rajoute les femmes qui font des mammographies en dehors parce que leur gynéco leur prescrit une mammographie, voilà. Si on reste sur la tranche 50-74 ans, on arrive à peu près à 50-55% de femmes qui font un dépistage. Donc c'est quand même pas beaucoup finalement. Ça fait effectivement une femme sur deux qui ne le fait pas.
À quoi pensez-vous que les femmes, justement, pourquoi elles ne font pas le pas ? C'est par peur, par méconnaissance ?
Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, bien évidemment. Oui. Donc oui, probablement le plus gros facteur, c'est la peur. La peur de la maladie, la peur de savoir, la peur de passer d'un statut de bien portante à un statut de malade, finalement. Mmh. Ça fait très peur. La peur des traitements qui vont suivre aussi, et qui, pour le coup, on s'imagine tout de suite, la chimio, l'ablation du sein, etc. Et justement, le message de la prévention, c'est de dire aussi, essayons d'y penser, même quand tout va bien, parce que justement, là, on peut, si jamais il y a un cancer, le diagnostiquer, à un moment où il est encore facile à prendre en charge. Mmh. Et donc, pour le coup, la chimio ne sera peut-être pas systématique, l'ablation du sein ne sera pas systématique, etc.
Oui, plutôt c'est pas facile. Chance. Oui, voilà. Plutôt c'est pris, c'est mieux c'est, en fait.
Voilà. Donc, il y a effectivement la peur. Il y a les difficultés d'accès aux soins aussi, mine de rien, difficultés d'accès à la mammographie. On en est encore là en France et malheureusement, ça ne va pas forcément dans le bon sens parce qu'il y a beaucoup de cabinets de radiologie qui ferment. Les radiologues sont une population vieillissante, malheureusement. Donc, beaucoup partent à la retraite et les jeunes radiologues ont du mal à reprendre cette activité-là parce qu'ils sont plus attirés par la radiologie un petit peu plus technique. Et donc, on a cette difficulté-là aussi d'offre qui concerne l'offre de soins et qu'il faut arriver à booster un peu. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment au niveau des pouvoirs publics et tout ça. Hein, la solution n'est pas encore trouvée, malheureusement. On a des camions, des mammobiles qui commencent à émerger un peu partout.
Ça, c'est déjà une belle chose.
C'est une très belle chose, mais il faut s'assurer aussi que la qualité ne va pas baisser. Mmh. Donc, on peut pas le faire trop facilement non plus. Donc, il faut vraiment... c'est un travail de longue haleine. Et puis après, vous avez d'autres peurs, d'autres styles, comme par exemple peur d'avoir mal lors de la mammographie. C'est vrai que la mammographie, c'est pas un examen très agréable. Hein. Toutes les dames qui sont autour et qui en ont eu, j'imagine, pourront le confirmer. C'est pas très agréable. On a quand même la chance d'avoir maintenant des machines qui sont de plus en plus modernes et qui font moins mal. Donc ça, c'est important aussi de communiquer autour de ça.
Et puis c'est dire que c'est sur un temps court.
Voilà, c'est ça. Et pour le coup, pour cette peur-là d'avoir mal, c'est important de prendre le temps de parler avec ces femmes-là pour... arriver à déjà qu'elles comprennent qu'effectivement ça ne dure pas longtemps, que c'est nécessaire d'écraser la glande pour pouvoir avoir des images de meilleure qualité et pas passer à côté d'images qui pourraient être cachées si on n'aplatit pas bien. Enfin voilà, et c'est vrai que quand on comprend l'intérêt de l'examen, on va accepter peut-être un petit peu plus facilement ce temps court de douleur qui n'est pas très agréable. Donc voilà, donc effectivement c'est multifactoriel. Et donc plus on va en parler, plus ça sera important pour essayer de lever les freins. Et voilà. Donc c'est vrai que c'est un défi aussi pour les professionnels de santé que nous sommes d'arriver à prendre le temps d'identifier pour chaque femme ce qui va être son frein. Parce qu'on ne peut pas passer le même message à tout le monde. Il faut vraiment s'adapter à ce que pense la femme au départ et pour l'aider personnellement.
On envoie les messages de prévention à partir de 50 ans, donc pour pouvoir faire les mammographies. Est-ce que ça touche aussi les femmes en dessous de 50 ans ? Et pourquoi on ne baisse pas non plus ? Parce qu'on considère qu'on a plus le cancer à partir de 50 ans, c'est statistique ça ?
Alors oui, effectivement, le cancer du sein, c'est un cancer qu'on va appeler un cancer d'usure. C'est-à-dire que l'âge va être un vrai facteur de risque. Et plus on va avancer en âge, plus on va avoir de risque d'avoir un cancer du sein. On a à peu près 80% des cancers du sein qui surviennent après l'âge de 50 ans. Il y a une vraie augmentation à partir de l'âge de la ménopause, finalement. Mmh. Mais ça veut dire quand même qu'il reste 20% des cancers qui surviennent avant. Et donc, oui, ceux-là, on ne peut pas non plus se permettre de les oublier. Donc, un programme national de santé publique, ça va essayer de viser quand même les personnes les plus nombreuses, oui, dans un cas de figure. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on va s'adresser aux femmes à partir de 50 ans pour proposer cette mammographie prise en charge à 100%. Mais des femmes qui sont identifiées comme à risque plus jeunes, bien sûr, on va adapter le rythme et l'âge de départ de dépistage, de la surveillance. Et puis, effectivement, après, il y a d'autres recommandations qui existent. Hein. À partir de 20-25 ans, c'est important de prendre l'habitude de voir un professionnel de santé chaque année pour se faire examiner aussi au niveau des seins. Et puis, peut-être apprendre aussi soi-même les signes qui peuvent alerter pour pouvoir être capable de réagir plus vite.
Donc l'autopalpation, c'est ça ?
L'autosurveillance des seins, effectivement, voilà, qui ne remplacera jamais la consultation avec le professionnel de santé,
oui,
et qui ne remplacera encore moins la mammographie.
Alors donc, je disais, vous faites partie du Centre régional de coordination de dépistage des cancers. Ça fait combien de temps que vous y êtes, vous ?
Moi, j'y suis arrivée début 2021.
D'accord.
Le CRCDC, il existe depuis 2019. C'est une structure qui est régionale, qui existe. Un CRCDC, il y en a dans chaque région en France. Hein. C'est mis en place dans le cadre du plan cancer. Et en fait, les CRCDC, ils sont issus de la fusion de toutes les anciennes petites structures départementales qui existaient avant, depuis les années 2004, qui ont été regroupées. Donc en Haute-Garonne, c'était DOC31, par exemple, qui était assez connu parce que très dynamique sur le terrain. Et donc voilà, donc nous, on fait la même chose, en fait. Hein. On fait la même chose.
Et donc, médecine de prévention, donc, pour les groupes, fait des ateliers de sensibilisation aussi, notamment pour les personnes qui sont éloignées des soins, n'est-ce pas ?
Oui, alors en fait, on a plusieurs missions au CRCDC. Déjà, on a une mission de coordination, c'est-à-dire on s'assure que les dépistages se passent bien d'une manière générale. On va s'assurer que les deuxièmes lectures des mammographies fonctionnent bien, que les professionnels de santé sont bien formés. Donc on a une mission de formation des professionnels de santé. Et on a, bien sûr, le gros de notre mission, c'est la sensibilisation du public, et notamment des publics éloignés du système de soins. Donc, parce que des événements Octobre Rose, c'est formidable, et maintenant ça vit tout seul finalement. On n'a plus besoin de nous sur ces,
oui,
sur ces événements-là. Il y a eu un tel relais qui a été pris par les structures locales, les collectivités, les communautés.
Et tant mieux,
on a besoin de ces relais-là. Mais il y a toujours, on l'a dit tout à l'heure, une femme sur deux qui ne se fait pas dépister pour le sein, et puis pour les autres dépistages, c'est encore pire. Donc il y a besoin d'aller chercher aussi les autres, justement. Et les autres, elles ne vont pas forcément venir sur Octobre Rose. Donc il faut aller vers ces personnes-là. Et donc, pour le coup, nous, on est recentrés sur des nouvelles missions maintenant où on essaie d'aller vers les populations en situation de handicap, de précarité. On va essayer aussi d'aller dans les maisons d'arrêt, voir vraiment toutes ces personnes-là qui sont vraiment très éloignées du système de soins.
Alors, on parle d'Octobre Rose, mais Octobre Rose, ça devrait être donc toute l'année, on le disait, de par finalement le dépistage. Mais également, on parle du dépistage du cancer du col de l'utérus, n'est-ce pas ?
Oui, c'est vrai que depuis quelques années, on essaye d'élargir le message qui est diffusé pendant Octobre Rose. Donc au début, c'était très centré cancer du sein, et ça reste encore dans la tête de beaucoup de gens. Mais on essaie de l'élargir à la prévention des cancers gynécologiques. Et cancer gynéco, pour le coup, ça va être beaucoup le cancer du col de l'utérus, parce que c'est un cancer qui est beaucoup moins fréquent, mais qu'on pourrait presque arriver à éradiquer si les mesures de prévention étaient vraiment appliquées. Donc les mesures de prévention du cancer du col de l'utérus, ça va être les frottis de dépistage, donc un équivalent de la mammographie, mais là pour le col de l'utérus. Donc il y a déjà beaucoup de femmes qui se font surveiller par frottis, mais il y a encore à peu près 30% de femmes qui ne le font pas. Donc les frottis de dépistage qui permettent même de repérer des lésions avant le début du cancer, donc les prendre en charge avant que le cancer soit apparu. Et puis après, surtout, le plus important maintenant, dont il faut qu'on parle vraiment beaucoup, c'est la prévention par la vaccination contre le papillomavirus. Parce que le cancer du col de l'utérus n'existera pas s'il n'y a pas d'infection par le papillomavirus.
Donc
c'est
avec
la condition.
Le vaccin.
Voilà. Donc voilà, on peut lutter contre ce papillomavirus par le vaccin qui est proposé aux adolescents et adolescentes.
À partir de quel âge ?
À partir de 11 ans jusqu'à l'âge de 19 ans. Garçons et filles.
C'est vrai qu'il y a une campagne qui passe actuellement, notamment en radio,
ouais,
par rapport à ça. Donc c'est très important. Il faut expliquer que c'est l'avenir aussi. Si on prévient à l'avance, ça permet d'éviter qu'il y ait quelques dégâts plus tard, aussi bien chez les garçons que chez les filles.
Oui, tout à fait. Et puis il faut rappeler aussi que c'est le seul vaccin qui existe contre un cancer. Donc mine de rien, c'est quand même une vraie chance d'avoir ce vaccin-là.
Oui.
On est dans un pays où il y a beaucoup de peur hein, vis-à-vis des vaccins. Donc, on a pris beaucoup, beaucoup de retard en France sur la vaccination contre le papillomavirus. Mais c'est un vaccin qui permet, qui déjà, maintenant, on sait qu'il fonctionne. On bénéficie du recul des autres pays oui. qui l'utilisent depuis très, très longtemps. Donc, on sait qu'il fonctionne. On sait qu'il n'a pas d'effet secondaire tel qu'on pouvait les craindre avant. Et il permet d'éviter les lésions liées au papillomavirus et donc prévenir des cancers qui pourraient être développés et provoqués par le papillomavirus. Et le papillomavirus peut provoquer des cancers chez les garçons et chez les filles.
À propos de ça, et ça c'est très important quand même de le signifier, monsieur le maire le disait tout à l'heure, par rapport au cancer du sein, 1% des cancers du sein sont détectés chez les hommes. Comment on fait pour détecter, comment ça fonctionne là? Alors, on fait une mammographie aussi? Alors, je pose une question que... Peut-être peu se pose, mais c'est très important. Peut-être... Allez, je
d'accord,
vous laisse
okay.
le
non,
choix.
Je voulais voir si,
oui, bien sûr.
Si on pouvait partager les réponses. Oui, effectivement, donc un cancer, 1% des cancers du sein concernent les messieurs. Alors les messieurs, on ne peut pas leur proposer de mammographie, hein. C'est beaucoup plus difficile. Mais en tout cas, c'est important qu'ils soient conscients qu'eux aussi, ils ont une glande mammaire. Enfin, deux glandes mammaires en l'occurrence, qu'elles ne se développent pas parce qu'ils n'ont pas les hormones pour la faire pousser, mais en attendant, elle est là, et donc ils peuvent avoir un cancer du sein. Et ce cancer du sein, comment il va se manifester? Il va se manifester un peu comme chez une femme aussi, hein, quand il va provoquer des symptômes. Ça va être une boule au niveau d'un des seins, ou alors des anomalies cutanées, ou au niveau du mamelon, ou une rétractation dans une zone du sein. En fait, les symptômes sont les mêmes que chez les femmes.
Madame Maé, oui.
En général, quand ça arrive, les hommes, ils viennent nous voir parce qu'ils sentent une masse, la majorité du temps.
D'accord.
Mais c'est vrai que c'est aussi à développer chez les médecins de terrain. Les généralistes, on ne parle pas forcément les glandes mammaires des hommes. Alors que chez les femmes, on le fait vraiment tous les ans, assez systématiquement. Chez les hommes, on n'y pense pas forcément.
Donc, ce sera l'occasion.
Donc, ça peut être un peu fortuit. Hein. Ça peut être en écoutant un cœur ou un poumon, on passe le stéthoscope, on sent quelque chose. Mais ce n'est pas du tout dans les mœurs des hommes de palper.
Oui, parce qu'on n'a pas trop l'habitude, on n'avait pas trop cette connaissance. Et c'est bien de pouvoir le signifier aussi. Et alors, si on devait faire un petit bilan rapidement, donc à partir de 50 ans, on reçoit chez soi ou par courriel le fait de pouvoir faire son examen, mais régulièrement, aller consulter, déjà faire l'autopalpation. Atelier d'autopalpation également présent cet après-midi, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est moi qui l'anime cet après-midi. Alors moi, je dis auto-examen, parce qu'il n'y a pas que la palpation.
D'accord. Ouais. C'est quoi la différence? Qu'est-ce que...
Il y a l'inspection aussi, se regarder dans un miroir. C'est pas que palper.
D'accord.
Voilà.
Donc cet après-midi à partir de
14h30,
d'accord. Ça va durer combien de temps? Une heure?
Une heure.
Donc on va expliquer comment ça fonctionne au juste, donc l'autopalpation, l'auto-examen également. Et puis surtout ne pas oublier de se rapprocher d'un professionnel de santé régulièrement par rapport à tout ça.
Oui, c'est ça. Et pour la gynéco, pour le coup, on pense, c'est vrai, très vite à un médecin gynécologue. Il ne faut donc surtout pas oublier que les médecins généralistes peuvent aussi examiner, ainsi que les sages-femmes. Voilà.
Oui.
Et autant ça peut être très difficile de trouver un gynéco, autant les sages-femmes, on a quand même un maillage territorial avec des sages-femmes qui est assez important. Donc, c'est plus simple d'aller trouver une sage-femme. Et souvent, on est même plus à l'aise avec une sage-femme pour partager certain nombre de questions.
Est-ce qu'on a des liens, peut-être sur Internet, pour pouvoir retrouver toutes les informations nécessaires auprès de vous?
Oui, alors ben, nous, on a le lien vers le site du CRCDC sur lequel il y a un certain nombre d'informations. Alors là, vous me prenez au dépourvu, je n'ai plus l'adresse. Mais si on tape...
C'est du direct.
Si on tape... Oui, c'est ça. Si vous tapez CRCDC, donc Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers,
oui.
Occitanie, sur les moteurs de recherche,
oui, bon.
Vous allez tomber sur le site du CRCDC.
Voilà.
Après, pour les personnes qui souhaitent approfondir les notions sur le cancer, il y a énormément d'informations sur le site de l'Institut National du Cancer.
D'accord.
Donc c'est e-du-6-cancer.fr. Et là, vraiment, voilà, il y a des informations sur la prise en charge, le dépistage, la prévention d'une manière générale. Voilà. Ce qu'on n'a pas abordé, c'est la prévention aussi dans notre vie de tous les jours, c'est-à-dire faire attention à soi, mais ça sera peut-être développé par les dames sportives du bout de la table.
Les Dragon Ladies, voilà. Qu'on aura tout à l'heure, bien sûr, absolument.
Mais en tout cas, c'est vrai que dans notre vie de tous les jours, et c'est pas que pour le cancer du sein, c'est pour les cancers en général et même pour les maladies chroniques aussi, avoir une hygiène de vie saine, ça va énormément jouer aussi, et on estime qu'on peut éviter jusqu'à 40% des cancers.
L'activité sportive.
L'activité physique.
L'alimentation.
L'alimentation.
Le sommeil.
Le sommeil. Le tabac, enfin, ne pas fumer, voilà, faire attention à l'alcool, attention à surveiller son poids, enfin voilà, certains nombres. Et puis bien sûr, donc, la vaccination, la protection contre le soleil, il y a énormément de choses qui vont jouer. Et donc pour le cancer du sein, on sait que l'alcool, ça va jouer, le surpoids, ça va jouer, et l'activité physique, enfin le manque d'activité physique, c'est également...
Même de la marche, c'est une activité physique. Donc
c'est ça,
on peut faire
c'est pour ça que je
ne
dis pas forcément sport, c'est activité physique, oui. Le fait de bouger. Voilà, le fait de bouger.
Exactement. Merci beaucoup. Vous pouvez intervenir après, durant l'émission, si vous le souhaitez. Merci beaucoup en attendant. Alors, on va passer le micro juste à côté à nos socio-esthéticiennes, Amandine et Marjorie. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Alors, déjà, c'est Marjorie.
Bonjour.
Et voilà, à toutes les deux. Alors, donc, on va commencer par toi, Amandine. Tu es socio-esthéticienne. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ce métier, au juste ?
Alors oui, nous, on intervient auprès des personnes fragilisées. Ça peut être dans la précarité, dans le handicap ou dans la maladie. On intervient auprès de ces personnes-là en institution. Et le plus souvent, ce sont des soins qui sont censés être pris en charge et qui sont gratuits pour les personnes, dans ces situations-là.
Et donc, toi, tu es présidente, n'est-ce pas, de l'association régionale des socio-esthéticiennes ?
Oh, c'est tout à fait ça, oui. D'Occitanie, donc les ARS, Association Régionale de Socio-Esthétique, il y en a dans toute la France, et nous, du coup, on en a une en Occitanie, on a une vingtaine de socio-esthéticiennes avec nous, et on essaie de prendre en charge les patients, du coup, au maximum, avec des soins de, on appelle ça des soins de support, mm-hmm. et d'intervenir dans ces moments de vie qui sont un peu plus compliqués.
Est-ce que tu peux essayer d'aller un petit peu plus loin sur les soins de support, à nous expliquer qu'est-ce que c'est au juste ?
Alors, les soins de support, ils interviennent notamment pendant un cancer. Vous parliez tout à l'heure de sport. Ça en fait partie. Le sport fait partie des soins de support et d'accompagnement. Et en socio-esthétique et en socio-coiffure, puisque ma collègue à côté, Marjorie, fait ça aussi. Ce sont des soins qui vont aider le patient ou sur des traitements en fait, qu'il va le recevoir où il va y avoir du coup des effets secondaires. On va essayer au mieux d'accompagner les patients à pallier à ces effets secondaires cutanés. Ce qui va être important. Nous, on va considérer en fait que c'est aussi important que les traitements parce que voilà, il y a le côté psychologique aussi, l'accompagnement, la détermination à prendre soin de soi, à garder sa dignité, pouvoir se regarder dans un miroir, à prendre soin de soi, voilà, et continuer à s'aimer, à se trouver beau. Voilà.
Et ça fait une douzaine d'années que tu exerces ?
Oui, tout à fait. Ça fait 12 ans. Et dans différentes structures, du coup.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir vers ce métier de socio-esthéticienne ?
Ça a été la découverte d'un métier un peu par hasard. Et puis aujourd'hui, ça en fait une passion. Donc, c'est très, très chouette de travailler auprès de patients et d'accompagner au quotidien des personnes avec un toucher qui est non médical, où on va vraiment toujours pratiquer dans un but d'embellissement et d'estime de soi et de conserver sa dignité. Et ça, c'est très important pendant la maladie.
Comment ça se passe ? Tu te déplaces à domicile chez les personnes ?
Alors oui, je vais parler au nom de toutes les socio-esthéticiennes. Du coup, on peut intervenir au domicile des personnes. On a notamment là signé une convention avec l'Oncopole. Donc nous avons un partenariat avec l'Oncopole. Les médecins prescrivent des séances de socio-esthétique. Et nous, on se déplace au domicile. Alors la plupart du temps, nous, on essaie d'aller dans les endroits où il n'y a personne, où les patients sont seuls et avec très peu d'accompagnement. Ça, c'est notre objectif premier, c'est d'accompagner sur un projet de ruralité. Toujours gratuitement pour le patient. Et nous, au sein de l'association, on essaie de trouver des fonds. On a des fondations qui nous viennent en aide. On a des associations. On a beaucoup d'acteurs qui nous permettent d'intervenir et de pratiquer notre métier auprès des personnes.
On va passer le micro juste à côté à Marjorie. Bonjour Marjorie.
Bonjour.
Alors toi, tu es socio-coiffeuse, c'est
ça ? Oui, c'est ça.
Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton métier ?
Alors moi, c'est vrai que la définition se ressemble beaucoup à ma consœur Amandine, puisque je suis là, moi, plus pour la partie capillaire.
Oui.
Ça va être effectivement l'estime de soi. On va travailler autant en milieu médical, médico-social et social. Moi, j'accompagne en fait sur la reconstruction identitaire par les cheveux.
D'accord.
Et la définition, je pense, qui nous va bien, c'est qu'en fait, on n'est plus dans le paraître, on est dans mal-être. Oui. Vraiment, le mot mot et la définition que j'aime beaucoup, c'est l'inclusivité, en fait. Parce que ben, on a tous besoin de prendre soin de soi, et encore plus quand on vit la maladie, et encore plus dans le handicap, la vieillesse. Voilà, c'est vrai que c'est des choses qu'on a tendance à oublier, mais on a besoin de se regarder dans le miroir, psycho-émotionnellement, en fait. Ça compte de se sentir en accord avec, avec soi, son identité.
Comment ça fonctionne au juste ? C'est-à-dire que c'est des personnes qui vous contactent ? C'est les patients qui vous contactent ? Ou alors c'est directement les associations qui prennent contact avec vous ? Comment ça marche ?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a directement par les structures, il y a les associations, les structures médicales, les établissements. Donc, c'est en semant beaucoup de petites graines qu'aujourd'hui, on fait appel à nous. On ne va pas se mentir, parce que c'est vrai que nous sommes un peu des métiers d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que si on questionnait, personne ne nous connaît. Donc, c'est par ces interventions-là, les salons, les réseaux, où on apprend à nous connaître. Et puis après, oui, il y a les particuliers. On peut offrir autant faire du domicile ou autrement recevoir un cabinet.
D'accord. Voilà. Donc après, vous êtes amené, vous, à vous déplacer. Pareil, oui. Un petit peu dans les coins un petit peu reculés.
Oui.
C'est ça, autour de Toulouse. Dans la région, vous déplacez beaucoup ?
Alors moi, je ne fais pas la région. Je suis vraiment propre à Toulouse. D'accord. Et puis sa périphérie. Parce que déjà, il y a ce qu'il faut à faire, j'ai envie de dire. Oui. Voilà. On n'est que 3 socio-coiffeuses aujourd'hui sur Toulouse.
Ah oui, c'est peu.
C'est vraiment peu. On n'est que 500 en France. C'est un métier qui sort depuis 12 ans, c'est une formation RNCP qui est bien reconnue, c'est grâce au plan cancer.
Ok, RNCP,
c'est-à-dire reconnu par l'État.
D'accord.
Voilà. Okay. C'est une formation qui se déroule aujourd'hui pour les coiffeuses qualifiées qui ont envie de se former à d'autres, et puis à d'autres voies, on va dire. Et puis oui, on est peu, donc oui, il y a un gros débat, un gros travail à faire sur le terrain. Oui.
Alors concrètement, parce qu'on parle de sociaux, coiffeuses, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont par rapport aux patientes qui ont perdu malheureusement les cheveux suite aux chimiothérapies, aux traitements, n'est-ce pas ? Et comment ça fonctionne ? C'est-à-dire que vous allez, grâce à des dons de cheveux, vous allez recréer des compléments capillaires ?
Moi, je ne suis pas sur cette partie-là.
D'accord.
Mais alors déjà, pour donner un chiffre, en fait, il faut savoir qu'il y a une étude qui a été faite et déposée. C'est que dans les 7 minutes qui suivent l'annonce de la maladie, la patiente, la seule chose qu'elle retient, c'est la perte de ses cheveux. Alors peut-être parce qu'on a confiance au corps médical et qu'aujourd'hui on sait qu'on peut s'y remettre, et puis il y a des noms qui sont un peu difficiles au moment de l'annonce de la maladie, c'est quand même un choc, donc voilà. Mais la seule chose que la personne retient au bout de 7 minutes, c'est la perte de ses cheveux. Donc moi, j'interviens à partir de l'annonce de la maladie jusqu'à la rémission. Il y a différents stades. Moi, je vends les compléments alimentaires. Je les propose à partir du moment où la patiente a son ordonnance. Je peux proposer plusieurs solutions, qu'elles soient partielles.
Fortifier.
Alors non, on ne parle pas de fortification pendant les traitements. Voilà. Là, on sait que à partir du moment où il y a les cheveux qui vont tomber, c'est le médecin qui l'annonce par rapport au protocole de soins qui va être fait. Donc moi, je vais plutôt travailler sur une estimation de perte des cheveux sous plusieurs semaines ou peut-être jours, ça dépend. Et à partir de là, on va parler prothèse capillaire, mais on va aussi regarder, on a tous un foulard, un accessoire qui peut aider en fait au départ à anticiper cette période-là et à pas se sentir tête nue. Voilà.
Ça fait combien de temps que tu fais ce métier ?
Alors, moi, je suis coiffeuse de métier depuis 22 ans, mais ça fait que 2 ans là que je suis sur le terrain en tant que socio.
Tu continues à pratiquer la coiffure à côté ?
Oui.
Et qu'est-ce qui t'a donné envie de partir là-dessus, donc sur ce secteur d'activité ?
Le Covid est pas loin derrière. Nous avons été déclarés métier non essentiel, nous avons été fermés, voilà. Et puis au retour au mois de mai 2020, on a eu des clientes qui ont eu l'annonce de la maladie juste avant le confinement, qui ont subi leur traitement pendant le confinement, et qui, je me souviendrai toujours de ce témoignage d'une de mes clientes qui m'avait dit « Je me suis rasée la tête toute seule dans ma salle de bain, pas de mari, pas d'enfant, pas de soutien, voilà. » Et c'est vrai que je me dis « Mais on est en 2020, comment aujourd'hui on peut penser à ça ?» Elle s'est retrouvée sans solution de secours. Et en fait, j'ai eu envie de faire autre chose à ce moment-là, voilà.
Bah déjà, je pense qu'on peut applaudir ces deux jeunes filles pour leur travail. À Alors donc, socio-esthéticienne, socio-coiffeuse, donc on rappelle que les soins peuvent être gratuits, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Il y a une chose essentielle aussi à savoir, c'est qu'un panier moyen est d'environ 150 euros. Lorsqu'on est malade, un panier moyen en termes de soins,
d'accord,
de produits, okay, c'est environ 150 euros. Une huile lavante, parce qu'on est obligé d'adapter les produits qu'on l'on va mettre sur la peau. Donc une huile lavante, une crème, un produit solaire, des produits de maquillage aussi pour pallier à la perte des sourcils, par exemple. Et on a estimé ce panier moyen à 150 euros. Donc tout le monde ne peut pas se le payer. Tout le monde n'a pas la capacité aussi de savoir ce qu'il faut mettre sur la peau, voilà, bien parce sûr, qu'on est complètement démuni. Donc il faut savoir qu'on essaie de faire notre maximum aussi pour pallier à ça et donner des produits, conseiller au mieux sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'il est important de faire au quotidien pour voilà, essayer d'avoir le moins d'effets possible. Mais ce panier moyen de 150 euros, c'est encore très compliqué parce que tout le monde n'a pas les moyens et ça, il faut absolument y remédier et aider au maximum les patients dans ces moments-là.
Et en plus, tu dis oui, 150 euros, mais c'est vraiment une liste de départ, parce qu'après, on peut rajouter, bien sûr, il y a les prothèses capillaires, il y a tout ça.
Oui, mais ça, c'est
alors, heureusement, il y a les LCPAM et les mutuelles aujourd'hui qui ont davantage augmenté leur plafond de remboursement, puisqu'il y a moins de 10 ans en arrière, une perruque était remboursée que 180 euros. Alors aujourd'hui, on est à 350 euros. Oui. Mais c'est vrai que sur le panier moyen de 150 euros, c'est vraiment la mise de départ. Les traitements peuvent durer 8 mois, 1 an, peut-être plus. Et c'est des choses qui se renouvellent. Donc, c'est ça aussi qu'il faut... C'est vraiment à prendre en compte que la maladie, elle nous suit aussi sur le long terme.
Qu'est-ce qu'on peut rajouter ?
Alors, certaines mutuelles, renseignez-vous auprès de vos mutuelles, puisque certaines mutuelles prennent en charge les soins de socio-esthétique, notamment Mutaero, voilà, qui est une de nos partenaires. Mm-hmm. Lorsque vous êtes chez Mutaero, vous avez droit à des soins de socio-esthétique. Voilà, donc... C'est à hauteur de souvent quelques séances, mais c'est déjà très bien. C'est un premier pas.
C'est déjà une très bonne chose.
Dans cet accompagnement.
Et justement, si on veut prendre contact avec vous, avoir des renseignements, comment on fonctionne ?
Alors, on a, vous tapez Ars Occitanie, bientôt nous aurons notre site internet.
Oui.
Sur les réseaux sociaux.
Aussi.
Sur les réseaux sociaux.
Qu'est-ce
nous sommes sur Instagram et vous tapez socio-esthétique 31.
Oui.
Ou ARSIN, Association Régionale de Socio-esthétique 31. Ars.mp31 et vous nous trouverez sur les réseaux.
En tout cas, bravo à vous, mesdames, mesdemoiselles, vous faites vraiment un travail absolument exceptionnel.
Merci.
Et heureusement qu'on vous a, parce qu'on a besoin de personnes comme vous au quotidien pour pouvoir aider les autres. On rappelle qu'il est très important de pouvoir se sentir bien pour être face à la maladie et surtout guérir plus facilement, n'est-ce pas ?
Exactement. Ben, le plan cancer, en fait, nous avait permis d'intégrer les interventions non médicamenteuses. Et c'est vrai que, oui, il faut que davantage de gens nous connaissent parce que l'annonce de la maladie d'un proche, ça peut être d'offrir un soin de socio-esthétique, d'offrir un soin de socio-coiffure. On peut accompagner tout ça. Et oui, on le dit toujours, le coiffeur est le meilleur psychologue, mais c'est pareil aussi, oui, pour l'esthéticienne. Et aujourd'hui, nous, oui, on accompagne vraiment pour la personne en soi. On parle bien de être, en fait. Voilà, merci.
On peut les applaudir toutes les deux, s'il vous plaît. Et ici, on finissait par une note d'espoir, parce qu'il y a quand même de l'espoir dans tout ça. On est en compagnie des Dragon Ladies, Flo et Anne. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, très heureux de vous accueillir ici sur ce plateau. Vous représentez donc l'association Dragon Ladies. Flo, qu'est-ce que c'est que ça ? Dis-nous tout.
Alors, avant de parler des Dragon Ladies, oui, je voudrais juste expliquer en deux mots ce que c'est que la vie d'une femme qui a eu un cancer. Ça peut être équivalent pour un homme, hein, mais bon, dans le cas présent, je suis une femme. donc, une étape difficile, c'est l'annonce, où là, on est quand même bien affaibli. Après, on part sur les traitements, et là, on est pris en charge complètement, même on va tous les jours en soins, etc. Tout ça, on l'accepte. Le plus dur pour moi, ça a été à la fin des traitements, où là, je me suis retrouvée seule, malgré ma famille et mon entourage, seule et devoir remonter la pente, parce qu'on est bien affaibli. Grâce à une amie qui m'est chère, elle m'a parlé des Dragon Ladies. Donc je suis allée un samedi matin sur le lac de la Ramée. Donc déjà d'arriver sur le lac, c'est juste extraordinaire. J'ai rencontré une équipe extraordinaire de femmes qui avaient toutes le sourire. Et je suis montée sur ce bateau d'une quinzaine de mètres où on est 22. Et on est 20 pagayeuses, une barreuse et un tambour.
Alors qu'est-ce que c'est qu'une barreuse déjà ?
Alors une barreuse, c'est ce qui guide le bateau. Parce D'accord. que les rames, les pagayes permettent d'avancer le bateau, D'accord. mais il faut tourner à droite, à gauche.
Oui, ben ça va pas forcément toujours tout droit.
Exactement. Oui. Et donc, la barreuse, entre autres, je suis barreuse, okay. permet de guider le bateau. Et donc cette image, on est assise déjà. Donc ça aide bien, parce que comme on est fatigué, être assise, c'est quand même un grand confort. On est sur l'eau, déconnecté de la terre, on commence à oublier nos soucis. Et là, on commence à pagayer. Donc moi, au départ, j'ai donné 2-3 coups de pagaie, pas plus. Mais néanmoins, avec toutes ces ladies qui pagayaient, le bateau avançait. Et ensemble, on avance. Cette image-là, elle est super forte pour moi. Et ça a été le début de la spirale positive. Le début de rencontrer des femmes qui avaient eu les mêmes problèmes que moi, parce qu'on se pose beaucoup de questions après. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi ceci? Et on se rend compte que toutes les femmes ont les mêmes problèmes. On ne parle pas spécialement beaucoup de la maladie, mais quand on a une question, on peut se parler entre nous, et ça nous rassure énormément. Et ensuite, de faire du sport, ça, bien sûr, de faire du sport, c'est hyper important. Donc c'est vrai que c'était le début d'une spirale positive, et je passe le micro à Anne.
Alors, Anne, bonjour.
Bonjour.
Alors, Anne, c'est pendant votre traitement, parce que vous êtes toujours en traitement, que vous avez connu les Dragon Ladies, grâce à Flo, juste à côté, c'est ça ?
Non. Non, on s'est rencontrés sur le bateau.
D'accord.
Non, c'est une de mes collègues aussi qui m'a parlé des Dragon Ladies. Oui, j'ai pas tout à fait le même parcours puisque moi je suis arrivée après ma première chimio, juste avant de perdre mes cheveux. Donc ça a été un grand soutien d'être dans cette équipe de femmes à ce moment-là. Ça m'a beaucoup portée. On a des injonctions quand on est en traitement. Alors il faut pas être stressée. C'est pas bon, le stress. Il faut faire de l'activité physique, même si on est au bout du rouleau. Et voilà, les Dragon Ladies, ça a été ça pour moi. C'est-à-dire qu'au départ, tous les samedis matins, toute la semaine, j'avais cet objectif d'être suffisamment en forme pour sortir de mon canapé pour aller le samedi matin pagayer.
C'était l'objectif.
Le départ du départ, c'est ça.
Oui.
Et puis là, on en est à préparer les championnats du monde, donc on a quand même pas mal avancé. Voilà, c'est ça. En 2 ans, les Dragon Ladies, c'est ça dans ma vie.
Ah, mais ça, c'est absolument magnifique. C'est-à-dire que tous les samedis matins, combien de temps ça dure, en fait ?
On a des entraînements qui durent... on est une heure et quart sur l'eau. On pagaie 6, 7, 8 kilomètres en fonction de la forme et...
Voilà. Quand même, il faut le faire.
Et en fonction des ordres de notre capitaine... Parce que la barreuse est une capitaine.
Avec l'énergie qu'elle a, on le sent juste à côté. Ce qu'on n'a pas tout précisé, c'est qu'en fait, que lors de l'intervention chirurgicale, on en parlait en off lorsqu'on s'est appelé pour préparer cette émission, on supprime, n'est-ce pas, des glandes et qui, alors, en fait, vas-y, précise, oui. S'il te plaît.
Donc déjà, le haut du corps est pas mal chahuté, je vais le dire comme ça. Oui. Et on nous enlève, entre autres, la chaîne ganglionnaire.
C'est ça.
Qui a un impact sur le lymphodème, donc c'est la lymphe dans le bras. Et donc le bras a tendance à grossir. Donc plus on mobilise le bras, plus on le bouge, et mieux c'est. Donc c'est aussi très bénéfique pour le bras.
Donc déjà, on refait une activité sportive, on remobilise le bras, donc c'est-à-dire qu'on reprouve une activité par rapport à ça. Mm. C'est ce qu'on retrouve aussi notamment sur l'escrime avec la solution Riposte, où justement on travaille le bras et on peut relever le bras avec le temps.
Oui, là on parle des Dragon Ladies, mais il y a plein d'autres sports. Il y en a une palanquée, le rugby, l'escrime, etc. etc. Mais c'est vrai, de refaire une activité, de bouger le bras, c'est vraiment extraordinaire. Voilà, et de se retrouver ensemble. Donc, ce que j'ai pas précisé, c'est que on sort un peu du lac de la Ramée.
Ah, oui, voilà. Parce qu'on a parlé de championnat du monde là.
Alors là, c'est pas de suite, mais déjà, ça c'est demain, c'est août 2026, mais on s'y prépare.
Oui, bien sûr.
Mais c'est-à-dire que avant ça, on a, enfin moi quand je suis arrivée, j'entendais parler de Venise, donc je venais d'arriver, hein, je suis arrivée au mois d'octobre, voilà. Et on est parti à Venise, donc là on a fait une quarantaine de kilomètres, on est parti de la place de Saint-Marc en bateau, donc lors de la Vogalonga, donc là c'est une manifestation qui est contre les bateaux à moteur, où il y a à peu près 3000 bateaux à rames, des pirogues, des gondoles, etc. Et donc on part de la place de Saint-Marc, on fait le tour de l'île de Burano, on passe le canal de Murano et après on redescend tout le Grand Canal. Et lors de cette manifestation, il y a des spectateurs tout le long. Enfin, c'est juste extraordinaire pour remonter la pente et savoir qu'on est capable de pagayer 40 km, mais jamais, jamais, quand je suis arrivée, je pensais que j'étais capable. Et ensemble, on y arrive. C'est ça qui est la force du Dragon Boat, c'est qu'ensemble, on y arrive. Et on a toutes réussi à y aller.
On précise que les Dragon Ladies, c'est une association et vous êtes plusieurs en France. Il n'y en a pas que sur Toulouse.
Exactement.
Oui, alors il y en a même assez peu en Occitanie, des équipes de Dragon Boat. C'est extrêmement représenté dans l'est de la France, il y a pas mal d'équipes, et puis région parisienne, et alors il y a même des Dragon Ladies sur la mer, donc là il faudrait qu'on aille voir ça parce que ça me semble complètement incroyable.
C'est superbe.
Voilà. Donc il y a pas mal d'équipes, oui, effectivement.
Et vous voyez, vous rencontrez parfois, parce qu'il y en a une dans le Lauragais, me semble-t-il. Non, on en avait parlé en off.
Alors, l'équipe du Lauragais, c'est une équipe qui est issue du Dragon Boat Toulouse. C'est une de nos coéquipières qui s'est associée avec un club d'aviron qui est porteur de projet. Ils ont acheté un Dragon Boat et ils vont naviguer sur le canal du Midi, effectivement.
C'est magnifique. C'est magnifique.
Et après, vous avez Albi aussi, qu'on a aidé aussi à monter. Donc, on essaye aussi de monter d'autres clubs. Parce que c'est sûr d'aller sur le lac de la Ramée, c'est très bien, mais si vous habitez à 50 km, c'est que ça devient compliqué.
Oui.
Vous avez beau avoir toute l'énergie du monde, c'est quand même compliqué.
Il navigue sur le Tarn, du coup, ou sur des lacs autour, là-bas?
Sur le Tarn, il navigue au niveau d'Albi, peu plus à côté d'Albi. Quoi. Okay. Voilà.
Ben, en tout cas, c'est une très belle chose. Où c'est qu'on peut vous retrouver, les filles? Donc au lac de la Ramée, tous les samedis matin?
Tous les samedis matin, vous pouvez venir, vous allez nous entendre chanter, etc. Parce
de
qu'on chante.
À quelle heure?
On se réunit à 9h30, mais on met le bateau à 10h sur l'eau. On navigue de 10h à 11h à peu près. Et après, il y a l'after, parce que c'est clair qu'après, il faut un moment où on peut discuter, boire, etc. Du thé, je vous précise.
Oui.
Et donc, on se retrouve, Passer, en tout cas, même si les gens maintenant commencent à nous connaître de plus en plus, et quand on passe, ils nous applaudissent, et vous ne pouvez pas imaginer l'énergie que ça nous donne. On a besoin de vous tous, quoi. On a besoin de vous tous pour nous remonter la pente. Et ce que je dirais, c'est surtout, n'attendez pas d'avoir un cancer pour prendre soin de vous, quoi. Prenez soin de vous avant vous. Et ça, y a plein de choses à faire. Ça, c'est hyper important. Prenez soin de vous. On ne vous donne jamais du temps pour prendre soin de soi-même. Donc, si vous ne le prenez pas, c'est mort.
Et non, justement, c'est l'occasion de pouvoir retrouver... Anne.
Oui, j'ai aussi envie de vous dire que j'ai une excellente nouvelle. On n'est pas obligé d'avoir eu un cancer du sein pour faire du Dragon Boat.
Ah, on peut venir aussi.
Absolument.
C'est très bien de
le donc,
préciser.
Il y a un club de Dragon Boat qui s'appelle le Dragon Boat Toulouse. Okay. Si vous nous cherchez, Dragon Boat Ladies, on sera sur ce site-là. Vous pourrez nous contacter par ce biais-là ou par les réseaux sociaux.
Aussi, donc Instagram, Facebook, peut-être on a...
Tout à fait.
On a ce qu'il faut derrière. Est-ce qu'on a des futures activités ou compétitions où c'est qu'on pourrait voir avant les championnats du monde?
Oui, alors, donc oui, hein, donc on vous parle des ladies parce que c'est le cœur du sujet.
Oui.
Donc on a aussi une section loisirs et une section compétiteurs. Donc Anne et moi, on a fait les championnats de France. Donc à titre indicatif, je suis 3 fois vice-championne de France de Dragon Boat quand même. Et on prépare entre autres les championnats du monde en août 2026 sur le lac d'Annecy. Donc rien que ça d'aller sur le lac d'Annecy, c'est juste extraordinaire. Donc voilà, donc c'est ouvert à tout le monde, bien sûr. Et avec grand plaisir, on vous accueille. Venez essayer, il n'y a rien de tel pour l'adopter.
Ah ben voilà, c'est le mot de la fin pour clôturer. Pour clôturer cette émission, donc j'aimerais comme remercier tous les intervenants. Merci bien sûr à la commune de Roques de nous avoir reçus aujourd'hui. Monsieur le maire, monsieur Mabir derrière nous, mais également Karine Galli, on a madame Maé, docteur Bichara, Amandine et Marjorie, nos socio-esthéticiennes, et puis nos Dragon Ladies qui sont ici et là, qui nous ont apporté la lueur d'espoir. Donc on aura l'occasion de se retrouver sur les ondes de Radio Axe Sud pour cette émission. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle thématique, en tout cas. Voilà, le message du jour, c'est prenez soin de vous, mesdames, même messieurs, bien évidemment. Et c'est ce qui nous permettra de pouvoir avancer au mieux dans la vie. Belle journée à tous et à très très bientôt. Merci. Pour clôturer ce brunch, aujourd'hui nous parlons avec Karine Galli, avec qui nous étions tout à l'heure, mais également monsieur Polony, bonjour.
Bonjour, je suis le président du club pour l'accueil de Roques et je suis partenaire de la semaine du mois avec...
C'est Octobre Rose, ben oui, bien sûr. Alors qu'est-ce que vous faites justement? Vous récoltez des fonds, c'est ça?
On va essayer de récolter des fonds. Vendredi prochain, on va faire le grand loto. Et là, donc, on va remettre la boîte et puis le club fera un don en même temps.
Voilà, c'est une belle occasion. Et vous allez remettre tout ça directement aux Dragon Ladies? À quelle association? Comment ça va se faire?
Le club Bon Accueil était l'association super pour la récolte des dons au niveau de cette journée et ces manifestations Octobre Rose. Et du coup, nous, avec Madame Maé, après, nous irons remettre en fait le chèque aux Dragon Ladies, du coup, en pagayant avec elle sur une matinée, en espérant qu'on ait un petit peu de soleil. Voilà, sur le bord du lac de la Ramée.
Ben oui, encore en octobre, même début de mois, on a de très très belles journées, y compris le samedi matin. Et le lac, quand il y a un petit peu de brume dessus, c'est encore plus agréable. En tout cas, bravo monsieur Polony pour ce beau travail que vous avez fait. Et Karine, un petit mot à rajouter?
Ben, je souhaite remercier toutes les personnes qui sont portées volontaires et que j'ai sollicitées aujourd'hui et qui ont fait en sorte que cette journée soit belle. Du coup, que ce soit le docteur Bichara qui nous a fait l'honneur d'assister à ce plateau radio, la socio-esthéticienne, la socio-coiffeuse, les Dragon Ladies et après, toutes mes collègues et tous les services de la commune qui ont participé.
Merci en tout cas à vous tous pour votre accueil aujourd'hui.
Merci.
Merci, bonne journée.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Myriam. Je vous retrouve comme tous les mois pour cette chronique sur les découvertes de destinations, ici, là-bas et ailleurs. Aujourd'hui, cap sur le Danemark. Le Danemark est un pays scandinave du nord de l'Europe. C'est le pays de la Petite Sirène et de Hans Christian Andersen, un auteur que vous connaissez bien à travers ses contes. Géographiquement, le pays regroupe la péninsule du Jutland, qui s'ouvre comme un pouce vers la mer du Nord et la mer Baltique, et de nombreuses îles, dont le Zeeland, où se trouve Copenhague, sa capitale. La superficie totale est de 43 000 km², ce qui correspond à peu près à la superficie de l'ancienne région Midi-Pyrénées, si on annexait en plus le département de l'Aude. 6 millions d'habitants se répartissent sur tout le territoire. Au cours de votre séjour, il faudra faire un petit peu de calcul mental pour jongler entre l'euro et la couronne danoise. Oui, il s'agit bien de couronne, car politiquement, le pays est une monarchie constitutionnelle dotée d'un parlement, avec un roi, Frédéric X, qui est en poste depuis janvier 2024. Frédéric X est le fils de la reine Margrethe II, qui a abdiqué donc en début d'année 2024, et de Henri Laborde de Montpezat. Montpezat, ça vous dit peut-être quelque chose. Lorsqu'on quitte Montauban et que l'on monte vers Cahors et le Quercy, on passe pas très loin de ce village de Montpezat de Quercy. Effectivement, la famille Laborde de Montpezat est originaire du sud-ouest et notamment de la région de Bordeaux, ce qui crée des liens encore plus étroits entre le sud-ouest et le Danemark. Qui dit Danemark dit aussitôt « terre des Vikings ». Effectivement, dès le 8e siècle, ces navigateurs très audacieux qui vont partir à la conquête du monde et découvrir notamment cette terre verte que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Groenland, Groenland, une terre glaciaire. Ils vont accoster par ailleurs sur le rivage, le littoral du Canada. Donc ces Vikings sont très représentés dans le patrimoine du pays. Pour les découvrir, il faut se rendre à quelques kilomètres à l'ouest de Copenhague, à 36 kilomètres à Roskilde. Vous avez là un célèbre musée des bateaux vikings. Sinon, traversez toute la région du Zeeland, à une centaine de kilomètres de la capitale. La forteresse de Trelleborg fait partie des joyaux de cette époque. Plus loin, lorsqu'on pénètre à l'intérieur du Jutland, dans le Danemark du Sud, on est à peu près à hauteur de Copenhague, par latitude, vous allez entendre parler ou découvrir le site de Jelling, qui a été inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. C'est un site funéraire qui a été édifié pour protéger la dépouille du roi Gorm, un roi qui a régné entre 936 et 958. Ce roi est moins connu que son fils, Harald Haldanbleu. Effectivement, ce Harald a unifié tous les clans vikings et fondé la monarchie actuelle du Danemark. Mais ce n'est pas tout. Harald Haldanbleu a aussi inspiré les concepteurs des communications par Bluetooth. Bluetooth signifiant la dent bleue, un hommage à ce fameux roi. Le Danemark, c'est le pays où les gens sont heureux. C'est ce qu'on appelle le hygge. C'est l'état d'esprit danois par excellence que l'on pourrait comparer au cocooning. Hygge signifie créer une atmosphère chaleureuse et profiter des belles choses de la vie avec ses amis. Ce qui est super hygge, ce sont les bougies et les vêtements confortables. Pour l'anecdote, les bougies sont partout présentes, les Danois consomment jusqu'à 6 kg par personne et par an. Le Danemark, c'est aussi un pays de spécialité, et notamment les tartines beurrées, ces fameuses smørrebrød. C'est une tradition paysanne qui n'est pas propre au Danemark. Souvent, du pain est accompagné d'une graisse, qu'elle soit animale ou végétale, saupoudrée de sucre, de sel ou d'épices. Ici, on consomme un pain noir, lourd et épais, et on l'agrémente en fait de tout ce qui vient de produits de la mer. Du hareng, des poissons fumés, des œufs de poisson, mais aussi du fromage frais, des concombres ou des radis. Pour que le smørrebrød soit encore plus appétissant, on rajoute une sauce émulsionnée qui se rapproche d'une mayonnaise qu'on appelle le remoulade. C'est additionné de câpre, de cornichon, de persil, de cerfeuil ou d'estragon. Les Danois rajoutent du curcuma qui lui donne cette belle couleur orangée, du chou ou des carottes râpées. Pour information, le nom de rémoulade vient du vieux français picard « rémolate » qui fait référence à du réfort qui était aussi employé pour bien nous stimuler les papilles. En dehors du rémoulade et des smørrebrød, que peut-on consommer au Danemark? Eh bien des réglisses. Mais attention, ici salé. Les Danois ont un goût très prononcé pour tout ce qui est salé, une façon d'ailleurs de conserver les aliments. Les Scandinaves consomment de 80 à 90% de la production mondiale de réglisse, utilisée au départ comme un médicament contre la toux ou le mal de gorge. Depuis le 19e siècle, l'akrids, c'est le nom danois, se prépare pour la confiserie ou encore en cuisine. Alors me direz-vous, Myriam, comment est-ce qu'on peut aller au Danemark? Eh bien c'est quelque chose de très facile depuis Toulouse notamment, grâce à la compagnie norvégienne Norwegian qui a ouvert en 2024 des vols directs entre Toulouse et Copenhague et Toulouse-Aalborg. Très content du succès de ces nouvelles ouvertures aériennes, l'année 2025 s'annonce très riche en propositions qui vous seront faites. D'ici que vous partiez vers le Danemark, je vous souhaite une très belle journée et portez-vous bien, à très vite.
Le brunch. L'émission qui met en lumière ceux qui font l'actualité à Toulouse et la région. Oh yeah. Le brunch.